le théâtre La Passerelle, à Gap, vous propose de rencontrer les artistes complices sur Fréquence Mistral.
Nous sommes aujourd'hui avec Jade Herbulot, autrice, metteuse en scène et comédienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Fréquence Mistral. Je le disais, vous êtes donc autrice, metteuse en scène, comédienne. Vous travaillez aussi sur quelques adaptations. Pour dire deux mots de votre parcours, vous êtes notamment passée par l'École nationale supérieure de Lyon pour des études de littérature, puis par le studio Théâtre d'Asnières et par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous avez aussi cofondé le Brigitte Ensemble avec Julie Bertin. C'est d'ailleurs à ses côtés que vous êtes artiste associée au théâtre La Passerelle à Gap. Alors, avant de parler de vos projets artistiques, j'avais envie de vous interroger justement sur le Brigitte Ensemble. Pourquoi ce nom Brigitte Ensemble ?
Alors bon, déjà je me permets juste de corriger la prononciation puisque c'est effectivement en français le prénom Brigitte, mais nous avons choisi sa version allemande Birgit, liée précisément à le premier spectacle que nous avons coécrit et commis en scène ensemble, qui est un spectacle qui s'est fabriqué au conservatoire justement. Et ce spectacle s'intitulait Berliner Mauer Vestige et racontait l'histoire du mur de Berlin, de sa fondation à sa chute, dans un dispositif un peu particulier puisque c'était un bifrontal. Donc le public était disposé de part et d'autre de la scène, dans des gradins face à face, et on avait imaginé une scénographie particulière qui puisse suivre, raconter elle aussi l'histoire. Et donc on fabriquait un mur sous les yeux du public qui donc se retrouvait soit à Berlin-Est, soit à Berlin-Ouest. Et ensuite, deux spectacles se jouaient en même temps, en polyphonie. Quand vous étiez assis du côté du gradin Berlin-Ouest, ben vous voyiez les interprètes qui jouaient des Berlinois de l'Ouest, mais vous ne voyiez plus le côté Est. Mais en revanche, vous entendiez ce qui se passe. Et donc, à la fin du spectacle, le mur tombait et le public se revoyait, se retrouvait. Et donc, c'est le spectacle fondateur de la compagnie parce qu'il a mis en scène un grand groupe, puisque on était au conservatoire 30 par promotion. Et donc là, on mettait en scène la moitié, donc on était 15. Et c'était aussi une forme très hétérogène qui, comment dire, exprimait la liberté aussi avec laquelle on voulait écrire. Et effectivement, c'est ce spectacle qui est sorti de l'école. Et c'est après ce spectacle que nous avons fondé la compagnie officiellement, donc en 2014. Et ensuite, ce spectacle s'est joué au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et il s'est aussi joué au théâtre de Châtillon où Christian Lalloz était directeur avant de devenir directeur de la scène nationale de Gap. En fait, le nom Birgit Ensemble, c'est parce que dans une des scènes, qui était une improvisation sur canevas, un des acteurs a ailé une des actrices en lui disant « Parlez dans le micro, Birgit ». Et quand on a cherché un nom pour la compagnie, on s'est dit qu'on voulait qu'il y ait une trace à la fois de ce premier spectacle et aussi une connotation féminine. Et puis, et donc le Birgit Ensemble a fini par devenir le nom choisi pour la compagnie.
Alors, en vous écoutant parler donc de l'histoire du Birgit Ensemble, d'ailleurs, désolée pour la prononciation, je me suis précipitée en lisant. Mais donc, en vous écoutant, j'entends que vous avez voulu créer une sensation immersive dès le premier spectacle, dès le début de votre compagnie. C'est d'ailleurs quelque chose que vous continuez à utiliser dans vos créations. Est-ce que c'est important pour vous, ce côté immersif ?
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut sembler assez commun de parler de spectacle immersif. J'ai l'impression que c'est aussi un concept qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que ce qui est avant même souvent l'écriture, on pense à un dispositif scénique. Quand on écrit avec Julie, on a déjà en tête certains principes d'espace et d'organisation de l'espace et de rapport entre les spectatrices, les spectateurs et le spectacle. Et c'est vrai que c'est le cas aussi pour Les Suppliques, une de nos dernières créations que l'on va présenter à la scène nationale.
Tout à fait, on pourra en parler.
Voilà, on en parlera plus tard, mais où c'est aussi un dispositif bifrontal qu'on a choisi en particulier pour mettre en scène ce matériau qui sont des archives, des lettres écrites par des juifs français ou étrangers adressées au maréchal Pétain. Il nous semble, et c'est un dispositif, c'est un bifrontal, mais aussi très resserré. Il y a aussi un autre spectacle qui s'appelle le Birgit Cabaret, où là c'est une revue politique une chronique chantée de notre actualité politique française et européenne, où avec Julie, nous jouons les maîtresses de cérémonie et où il y a au plateau 4 chanteuses et 2 musiciens. Et là, c'est un dispositif vraiment café-concert avec table-chaise. Pareil, on essaye de transposer vraiment la salle du café-concert pour créer ce rapport aussi très détendu, très franc, très direct avec le public. Donc, en effet, les dispositifs et la question du rapport et de comment les spectatrices et spectateurs vont non seulement regarder le spectacle, mais se sentir dans le spectacle, s'éprouver dans le spectacle, ce sont des questions qui nous habitent avant même l'écriture. Enfin, en tout cas, ça fait partie de l'écriture.
Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un grand intérêt pour l'histoire et la politique. Vous avez évoqué plusieurs sujets là, à l'instant. Quelle importance est-ce que ça a pour vous de traiter ces sujets-là au théâtre ?
C'est des sujets... nous qui nous intéresse personnellement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, c'est aussi ce qui nous a réunis, c'est-à-dire cette appétence pour l'histoire, pour la politique. Pourquoi ça nous semble important de porter ce matériau-là au plateau ? Alors aujourd'hui, je dirais que je crois que c'est lié au fait qu'on est dans une époque aussi où c'est un peu banal de dire ça, mais où tout va très vite et où on n'a pas forcément le temps de traiter calmement, plus lentement, certaines informations, certains événements. Et nous revenir sur l'histoire, c'est aussi une manière de mettre en lumière, calmement, je dirais, et en prenant le temps, des événements du passé qui nous semblent fondateurs dans notre manière aujourd'hui de penser le monde. Se tourner vers le passé, c'est toujours une manière, au fond, de se penser dans le présent. Donc, notre démarche, c'est évidemment pas celle d'un hommage, ou on n'est pas dans un travail de restitution, mais dans un travail d'aller éclairer un moment dans l'histoire aussi collective. C'est ça qui nous intéresse, c'est le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective. Je prends pour exemple justement les suppliques. Là, on a plongé dans l'histoire du régime de Vichy, évidemment, dans l'histoire de la discrimination des Juifs français et étrangers dans les années 30 et pendant la guerre dans les années 40. Et c'est vrai qu'on n'a pu que constater dans nos recherches des analogies avec la manière dont certains éditorialistes aujourd'hui, dont le Rassemblement national, pour le dire explicitement, parle des étrangers, parle de certaines parties minoritaires dans la population. Et donc ça, c'est intéressant de le faire résonner. Dans les suppliques, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant, mais c'est quelque chose que les spectatrices et les spectateurs peuvent entendre. Et sur la question politique, c'est vrai que ce qu'on propose, c'est pas un théâtre, je dirais, qui est militant, mais en tout cas, c'est un théâtre qui s'empare du politique aussi d'un point de vue thématique. Je parlais du Birgit Cabaret, c'est vrai que pour le coup, c'est une forme satirique qui entend aussi se moquer de toute la classe politique et de rire. Et c'est vrai que nous, quand on a pensé cette forme, on l'a pensé aussi en tant qu'héritière d'une génération qui a vu les guignols de l'info dans son adolescence. Et donc nous, la création du Birgit Cabaret, elle est née aussi de cette volonté de reconvoquer ce format satirique et qui met en jeu l'incarnation. Ce travail d'ironie, de moquerie de la classe politique, il nous semble important aussi pour, d'une certaine façon, reprendre la main du récit qui nous est imposé tous les jours dans les médias, que ce soit sur les réseaux, ou dans les journaux ou à la télévision. Voilà, c'est un travail de mise en résonance, un travail d'écho, un travail critique. En allant examiner ce qui s'est passé avant nous, cela nous permet de mieux nous comprendre aujourd'hui. Et aussi, c'est un monde, pour parler du monde politique, comment dire, il faut trouver une certaine distance aussi par rapport à ce monde-là. Là aussi, c'est un travail critique, la moquerie, l'ironie, c'est aussi un travail critique. Donc, je pense que c'est vraiment cette idée de créer l'espace, un temps aussi, parce que le théâtre, c'est du temps. On vient voir un spectacle, ça dure 1h30, ça dure 1h45, 2h. Donc, c'est aussi prendre le temps de la critique et aussi de l'émotion.
Et je voulais en venir justement au projet. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, notamment au projet Les Suppliques, qui va être représenté au Théâtre La Passerelle pendant cette saison, le 27, 28 et 29 avril. Et il y a aussi, en complément, un autre spectacle qui s'appelle Les Vies de Léon, qui va lui être représenté en janvier, le 26, 28 et 29 janvier, toujours à Gap, cette fois-ci au Tempo. Ces deux spectacles qui ont été travaillés de manière commune, finalement, puisque vous avez travaillé sur ces fameux suppliques, ces lettres envoyées par des Juifs au maréchal Pétain. Comment ça s'est déclenché, ce travail-là, sur ces lettres, justement?
Ça s'est déclenché pendant le confinement, le premier confinement, parce qu'on a été appelé par Alexandre Allier, qui est directeur associé à la Générale de Production, et qui à l'époque était en train de produire un film réalisé par Jérôme Prieur autour de ses suppliques. Et en fait, il nous a appelé parce qu'il connaissait notre travail de théâtre d'histoire, de théâtre documenté. Il était absolument passionné par ce matériau et il estimait qu'il fallait absolument qu'il soit porté à la connaissance du public à travers différents formats, différents médiums. Et donc il nous appelle en nous disant, voilà, j'ai cette matière, j'ai ces lettres qui ont été découvertes par Laurent Joly, historien au CNRS, spécialiste du régime de Vichy, et je pense que ce matériau peut faire l'objet d'une adaptation de théâtre, mais voilà, c'est une supposition, à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de vous emparer de cette matière. Et donc, il nous envoie à l'époque la retranscription de 300 lettres, puisqu'évidemment, toutes les lettres sont manuscrites, donc il nous a donné accès à 300 lettres qui avaient été retapées. C'est notre porte d'entrée dans cette matière et l'intimité de 300 autrices, 300 auteurs qui écrivent toutes et tous ou au commissariat général aux questions juives ou au maréchal Pétain pour exprimer une requête en lien avec tragédie, qui est la disparition d'un proche, qui est l'arrestation d'un parent, qui est la fermeture forcée d'un commerce. Et donc, en fait, ce qui était un peu fou à la lecture, c'était de découvrir toutes ces histoires particulières. Et puis aussi, à chaque lettre, d'y croire à nouveau, quoi, de croire qu'il va y avoir une réponse positive. Parce que ce qui est très particulier dans ce corpus, c'est que vous avez les lettres des personnes et vous avez assez souvent la réponse de l'administration. Et la réponse, 99% du temps, elle est négative. Il y a une exception qui existe, qui confirme la règle. Et donc, c'est comme ça qu'on a plongé dans cette histoire. Et donc, on a assez vite rappelé Alexandre pour lui dire qu'en effet, il nous semblait qu'il y avait un chemin possible pour une adaptation théâtrale.
Et dans vous venez d'évoquer un corpus de 300 lettres, vous en avez adapté 6 avec la pièce Les Suppliques, et puis vous avez aussi travaillé sur des lettres d'un certain Léon pour Lévy de Léon. Comment est-ce qu'on fait le tri dans un corpus aussi gigantesque, aussi fourni ?
Effectivement, c'est pas du tout évident, et c'est pour ça qu'on s'est associé pour ce choix avec Alexandre Allier et avec Laurent Joly, avec qui on a travaillé en collaboration pour l'écriture. Donc on l'a fait ensemble, et puis aussi avec Julie, très vite, on a décidé qu'il fallait s'intéresser à peu de lettres. On se disait qu'on pouvait travailler peut-être une accumulation, mais en réalité, ce qui nous semblait plus intéressant, c'était vraiment de plonger dans l'histoire de chacun et de chacune, et que la lettre soit aussi comme un fragment de la vie des personnes qu'on allait reconvoquer. C'est aussi grâce à Aude Vassallo, documentaliste avec qui on a travaillé, qui travaillait avec la Générale de Production et Jérôme Prieur, et qui avait retrouvé des éléments biographiques sur chacune des autrices et des auteurs. Donc, ce qui nous permettait aussi de constituer un paysage autour de chaque lettre.
Un grand travail chacun. Historique. Du coup, vous venez d'évoquer toutes les personnes avec qui vous avez travaillé pour créer ces histoires.
Oui, c'est-à-dire donc Aude Vassallo, documentaliste, Laurent Joly, historien. Et ensuite, nous-mêmes, on a mené des recherches plus générales sur la période pour retrouver des articles de journaux, pour retrouver aussi des textes de loi, que ce soit des lois de Vichy ou des ordonnances allemandes qu'on entend dans le spectacle, qui sont lues par l'actrice Bénédicte Cerruti. Donc, effectivement, il y avait la volonté d'être assez exact historiquement. Donc, il fallait le temps de ces archives historiques plus générales et le temps des archives plus particulières qui permettaient de mettre en jeu l'intimité des auteurs et des autrices et aussi que les spectatrices et les spectateurs puissent entrer dans cette intimité, puissent entrer dans l'histoire par le truchement de leur regard.
Et justement, vous parlez d'intimité, je reviens à la forme que va prendre la représentation des suppliques. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'est un plateau bifrontal, c'est-à-dire que les spectateurs et spectatrices seront de part et d'autre du plateau et pourront voir depuis plusieurs endroits différents la scène. Pourquoi ce choix, du coup, c'est un choix pour pouvoir toucher à l'intimité de ces histoires-là, pour encore aller plus loin dans ça ?
Exactement. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin de choisir un dispositif bifrontal, puisque la particularité, c'est que quand vous êtes assis dans les gradins, vous voyez l'autre côté. Donc, c'est un dispositif qui permet d'enclencher un procédé de circulation des regards, c'est-à-dire que vous voyez l'autre éprouver, enfin, vous voyez l'autre regarder le spectacle. Donc, c'était aussi créer un dispositif qui permette en permanence d'exhiber le processus de la représentation. C'est-à-dire qu'on est au théâtre. On peut jamais oublier qu'on est dans une représentation. Et c'était très important puisque les interprètes sont à la fois des narrateurs, des narratrices, et à certains moments incarnent les auteurs, les autrices des lettres et des membres de la famille, des proches des auteurs et des autrices de ces lettres dont on a eu connaissance. Et donc, comme nous ne sommes pas au cinéma, il y a cette question de comment on joue, comment on représente ces personnes qui ont vraiment existé. Mmh. Cette question était centrale. Et la question du respect de ces paroles, du respect de ces personnes, du respect de leur dignité était fondamentale pour nous. La solution scénique pour nous, c'était justement de ne jamais oublier qu'on est au théâtre. Donc on est toujours dans une tentative de se rapprocher de leur voix, de se rapprocher de leur vie. Mais l'idée, c'est qu'on n'est jamais au premier degré de l'incarnation. Donc le dispositif bifrontal, il permet de conserver en permanence une légère distance, qui permet au public aussi de choisir la distance à laquelle il veut être du spectacle, parce que c'est une matière qui est très dure. Nous aussi, on l'a constaté en travaillant. Donc, il fallait aussi trouver une façon de mettre en jeu les lettres pour que les spectatrices et les spectateurs ne soient pas étouffés non plus par la matière, mais qu'ils puissent, à un moment donné, choisir de se rapprocher ou de s'éloigner. Quand vous êtes dans les gradins, vous êtes très près, vous voyez tout, vous voyez les expressions des visages des interprètes, vous voyez tous les objets, toutes les... Et c'est pour ça aussi qu'on a fait un travail très précis sur la scénographie, le mobilier, les objets, dans l'idée qu'on puisse imaginer que tout ce qu'il y a sur le plateau ait pu appartenir aux autrices et aux auteurs, comme si tout ce qui était au plateau avait le statut d'archive aussi. Donc oui. Tout est très précis, le moindre verre, le moindre costume, et donner accès aussi au public à cette précision.
Et en parlant d'immersion, justement, on disait que Les Vies de Léon s'appuie, enfin en tout cas est un travail en corrélation avec Les Suppliques. Et cette fois-ci, la partie immersive, vous avez choisi de la faire avec un système qui s'appelle un système binaural, c'est-à-dire que sur scène, il y a comme une tête qui enregistre et qui reproduit le son dans les casques, comme si nous-mêmes avions la tête au milieu de la scène, c'est bien ça?
Exactement. Donc là, pour le coup, c'est d'un point de vue technologique vraiment un dispositif immersif, comme on le disait tout à l'heure. Mmh. Effectivement, le public est casqué, et donc cette tête binaurale, c'est un micro qui a comme deux oreilles. Et donc, en fait, ça produit un son spatialisé. Donc, vous entendez effectivement la scène comme si vous étiez à l'intérieur même de la scène. Donc, ils sont deux acteurs, un qui incarne Léon et un autre acteur qui incarne toutes les personnes qu'ils croisent sur sa route. Et donc, effectivement, les acteurs se positionnent par rapport à cette tête sur le plateau de manière à ce que le son soit dans le creux de votre oreille gauche, s'éloigne de votre oreille droite ou alors soit au-dessus de votre tête. Donc, il y a vraiment une dimension d'un son à 360 degrés qui vous plonge complètement dans l'histoire, sachant que le dispositif scénique, enfin la scénographie pour le coup, est très épurée, très minimaliste. Donc c'est vraiment le son qui permet d'élargir et d'enrichir le paysage de l'histoire qu'on raconte.
Qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans ce travail binaural justement ?
C'était vraiment la première fois qu'on travaillait avec ce type de technologie. On a travaillé notamment avec un ingénieur de Radio France, donc c'était très intéressant parce que ça demande d'être très subtil. Et puis pour les acteurs, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, voilà, nous, on travaille avec des micros, mais pas systématiquement. Quand vous êtes acteur, vous avez plutôt l'habitude de parler fort. Et là, c'est précisément l'inverse qu'on leur demandait. Donc pour eux-mêmes, c'était assez particulier parce qu'ils disaient, on est comme au cinéma, quoi. On parle vraiment très bas. Et donc, c'est même pas mal pour eux, quoi, de faire cette gymnastique. C'était pas forcément évident parce qu'il faut aller un peu contre ses habitudes. Et donc, c'était presque la combinaison entre un travail théâtral et un travail radiophonique. Parce que pour le coup, quand vous enregistrez des fictions à la radio, vous êtes dans cette démarche d'être très fin, subtil, la moindre inflexion de voix peut, enfin, tout à coup ouvre un paysage. Et donc, voilà, il fallait qu'il soit dans cette subtilité, cette finesse vocale, et en même temps dans un corps qui reste assez expressif, puisqu'on reste au théâtre.
Et pour revenir sur le fait qu'il y a deux spectacles, donc Les Suppliques et Les Vies de Léon, pourquoi avoir choisi d'en faire deux ? Pourquoi avoir choisi les textes de ce certain Léon pour faire ce deuxième spectacle ?
Les Vies de Léon, c'est un projet qui est né là aussi, de vouloir unir deux propositions, celle de la générale de production dont je vous parlais tout à l'heure avec l'autre associé de Alexandre Ali qui s'appelle Jérémy Pouillou, qui justement avait, nous a proposé de travailler avec cette technologie. Et d'autre part, avec la scène nationale de La Roche-sur-Yon, le Grand R, dont la directrice nous a proposé de monter une création pour un festival jeunesse qui s'appelle Rouler Jeunesse. Et donc, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas imaginer une forme pour les jeunes, donc au départ plutôt pour des élèves de l'école primaire, quoi, CM1, CM2, parce que c'est aussi au programme la Deuxième Guerre mondiale de ces niveaux-là, et pourquoi pas proposer un format immersif pour cette tranche d'âge. Donc, et je crois d'ailleurs que c'est le premier spectacle en binaural pour spécifiquement cette tranche d'âge-là. Et donc voilà, donc c'est né un peu de ces circonstances, et ça a rencontré aussi nous l'envie qu'il y ait un spectacle satellite des suppliques, oui, qui puissent s'adresser aussi à des plus jeunes et qui permettent de sensibiliser aussi des plus jeunes à cette histoire. Et pour la lettre de Lyon, c'est parce que en fait, on avait aussi, Aude Vassalou avait réuni après l'écriture du spectacle des suppliques davantage encore d'éléments sur la vie de Léon Cassin-Hélène-Bogen. Et on a choisi cette histoire parce que d'une certaine façon, elle finit bien au sens où Léon arrive à quitter le continent européen pour aller en Palestine britannique se réfugier et rentre finalement en Belgique et retrouve sa famille. Donc c'était une histoire entre guillemets qui finissait bien au milieu d'autres tragédies. Donc pour nous, ça nous semblait pertinent de présenter cette histoire-là pour cette raison en partie aux enfants. Et puis c'est une histoire très romanesque parce que Léon quitte sa famille en Belgique et traverse la France, traverse l'Espagne, ensuite les mers pour rejoindre la Palestine britannique. Donc c'était aussi, il y avait une dimension d'aventure, dimension épique et romanesque qui nous semblait aussi juste par rapport au public visé.
Et on a déjà bien parlé de ce qui va se passer donc, au théâtre en janvier et en avril, donc je le rappelle, les suppliques et les vies de Léon. Mais il se passe aussi d'autres choses puisque vous venez en résidence au théâtre Jade Herbulot.
Oui, tout à fait, en résidence d'écriture la semaine du 12 janvier pour un projet qui a ses tout débuts, donc c'est ma première résidence d'écriture et c'est un spectacle que je vais pour le coup écrire et mettre en scène seul au sein du Birgit Ensemble et qui est prévu pour l'automne 2027.
Donc c'est vraiment le tout début du projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée du sujet que vous avez choisi ?
Eh bien, le sujet est le suivant. Je vais travailler autour de mon histoire familiale maternelle, puisque ma mère, Esther Kamatari, est arrivée du Burundi au début des années 70, a quitté le Burundi. Et donc, je suis moitié burundaise et moitié française. L'idée, c'est de remonter les traces de l'histoire familiale et notamment d'aller reconvoquer l'histoire de mon grand-père maternel que je n'ai jamais connu puisqu'il est mort en 1964, 2 ans après la déclaration d'indépendance du Burundi, dans des circonstances jamais tout à fait élucidées, donc je ne l'ai jamais connu. Et donc j'aimerais travailler autour de son histoire, aussi autour de l'histoire de la déclaration d'indépendance du Burundi au début des années 60.
Et est-ce que vous avez déjà pu retracer tous les éléments dont vous aviez besoin pour commencer l'écriture, ou est-ce que justement ça fera partie de votre travail à venir ?
Pas du tout encore. Je pense que cette résidence va être... Enfin, j'ai quelques éléments d'archives personnelles, mais en tout cas les archives officielles, je les consulterai dans un second temps. Pour l'instant, c'est réunir des archives personnelles et plonger dans l'histoire du Burundi, que en réalité, je connais très peu. Donc voilà, donc ça va être vraiment une première plongée dans une histoire qui m'est inconnue et essayer de la rendre un peu plus familière avant de plonger dans des archives officielles. Et c'est un pays dans lequel je suis allée enfant, ensuite dans lequel je ne suis plus du tout allée, notamment en lien avec le génocide au milieu des années 90. Donc voilà, je me suis toujours tenue à distance de ce pays et d'ailleurs je m'y suis pas trop intéressée jusqu'à tout récemment. Et donc ça va être intense parce que c'est vraiment ouvrir une porte qui n'a jamais été ouverte. Donc effectivement, dimension à la fois très personnelle et en même temps il y a aussi cette dimension historique puisque la période qui m'intéresse c'est la période des indépendances puisque là c'est 62 le Burundi, mais 62 c'est aussi pour la France l'Algérie. Alors le Burundi était une colonie belge, après avoir été une colonie allemande, ça correspond aussi à celle du Rwanda. Donc voilà, donc c'est une période aussi très intenses historiquement. Donc c'est aussi mettre en lien l'histoire personnelle qui est la mienne et l'histoire plus large du Burundi et du rapport entre le Burundi et l'administration belge.
Bon, ça va être là aussi probablement pour les spectateurs et spectatrices source de découverte pour elle et eux. C'est une histoire qui semble assez méconnue, en tout cas en France.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, Jader Bilo, je pense qu'on a fait un très beau tour ensemble. Je le rappelle, on pourra retrouver donc Les Suppliques et Les Vies de Léon au théâtre La Passerelle. Les Suppliques le 27, 28 et 29 avril et Les Vies de Léon bien avant le 26 et le 28 et 29 janvier, donc organisé par le théâtre La Passerelle, et en janvier ce sera représenté au Tempo à Gap. Jader Bilo, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
À vous.
Rencontre avec les artistes associés et en résidence, Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle à Gap.